VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du mercredi 23 mars 2016. Morgane Guiriec et Anna Borson en votre compagnie. Au sommaire ce matin,
la chasse à l'homme se poursuit en Belgique suite aux attentats coordonnés d'hier à Bruxelles.
Côte d'Ivoire, plusieurs arrestations liées à l'attaque terroriste du 13 mars à Grand Bassam.
Présidentielle au Congo-Brazzaville, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, est en tête d'après les résultats partiels.
En Guinée, 5 morts d'Ebola ont été recensés.
Course à la présidence, ici aux États-Unis, Clinton et Trump remportent les primaires de l'Arizona.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
La chasse à l'homme se poursuit donc en Belgique. Suite aux attentats coordonnés d'hier à Bruxelles, la police tente de retrouver l'un des auteurs présumés. Des perquisitions ont été menées dans la nuit à travers la Belgique. Les autorités disent avoir trouvé un engin explosif et un drapeau du groupe État islamique. La Belgique va observer dès aujourd'hui un deuil national de 3 jours. Pour l'heure, on compte au moins 30 morts et 200 blessés suite aux attaques à l'aéroport et dans le métro de la capitale belge. Il semblerait aussi que deux assaillants ayant probablement commis un attentat suicide soit mort.
En réaction, les voisins européens sont sur le qui-vive. L'Espagne annonce une sécurité renforcée dans ses aéroports. Le niveau d'alerte est de 4 sur 5. Londres déconseille à ses ressortissants de se rendre à Bruxelles, suivant ainsi les recommandations des autorités belges. Même son de cloche aux États-Unis. Washington a mis en garde les citoyens américains de risques potentiels s'ils veulent voyager vers et à travers l'Europe. Des groupes terroristes planifient encore des attaques à moyen terme à travers le continent, indique le département d'État.
Terrorisme toujours en Côte d'Ivoire. Plusieurs arrestations en rapport avec l'attaque du 13 mars contre la station balnéaire de Grand Bassam. Une attaque qui avait fait 19 morts. Les précisions de Miley Segel.
Lors d'une conférence de presse mardi, le procureur d'Abidjan, Richard Adou, a annoncé qu'au total, 15 personnes ont été interpellées en rapport avec l'attaque du 13 mars. Par ailleurs, un avis de recherche a été lancé contre Kunta Dalla, qui semble avoir organisé et fait exécuter tout ce qui se passe à Grand Bassam, a révélé de son côté le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, sans révéler la nationalité du suspect. Le 13 mars, 3 assaillants avaient attaqué plusieurs restaurants, tirant au hasard, faisant 19 morts, dont 11 Ivoiriens, dont 3 membres des forces spéciales. Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué l'attaque perpétrée, selon le groupe, en réponse à l'opération anti-djihadiste menée par la France et ses alliés au Sahel. La Côte d'Ivoire a aussi été visée pour avoir livré 4 membres d'ACMI aux autorités maliennes.
Présidentielle au Congo-Brazzaville, les résultats partiels indiquent que le président sortant, Denis Sassou Nguesso, qui a passé plus de 32 ans à la tête du pays, est en tête avec 67,02% des voix. En deuxième position, Guy Brice parfait Kolelas avec plus de 16% des voix et le général Jean-Marie Michel Mokoko avec plus de 7%. Des chiffres qui ne comprennent pas ceux de Pointe-Noire, bastion de l'opposition. Un scruté jugé biaisé et contesté par l'opposition. 5 candidats d'opposition appellent les Congolais à exercer leur souveraineté si le président sortant l'emporte dès le premier tour, comme celui-ci l'a promis à ses partisans. Dans ce contexte, la communauté internationale, qui redoute de possibles violences, appelle les différentes parties au calme. En attendant, le pays est privé de télécommunications sur ordre des autorités. Rappelons que cette élection intervient à après un changement de constitution que ses détracteurs ont qualifié de coup d'État constitutionnel.
Amnesty International appelle les autorités tchadiennes à libérer immédiatement et sans condition 2 activistes des droits de l'homme arrêtés cette semaine alors qu'ils préparaient une manifestation pacifique. Les précisions de Michel Joseph.
Mahamat Nour Ibedou, porte-parole de Ça suffit, une plateforme d'organisation de la société civile, et Nadjo Kaina Palmer, coordinateur du mouvement IINA, on est fatigué, en arabe tchadien, ont été arrêtés dans les locaux de la police judiciaire de N'Djamena. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public et de résistance à l'action des autorités. Selon Amnesty International, les 2 activistes avaient été convoqués par le procureur de la République en rapport avec l'organisation de 2 marches pacifiques prévues les 22 et 29 mars contre la candidature du président Idriss Déby Itno, qui briguera son cinquième mandat le 10 avril. Le 19 mars, le ministre tchadien de l'Intérieur, Ahmad Mahamat Bachir, avait annoncé l'interdiction de toute manifestation sortant du cadre électoral. Mahamat Nour Ibedou et Nadjo Kaina Palmer n'ont été arrêtés que pour avoir exercé leur droit légitime à la liberté d'expression, d'association et de réunion. Ils doivent être libérés immédiatement et sans condition, a déclaré Samira Daoud, directrice adjointe pour l'Afrique de l'Ouest et centrale à Amnesty International.
Condamnation de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Des ONG saluent un jugement qualifié d'historique contre l'ancien vice-président congolais, jugé responsable des meurtres et viols commis par sa milice en Centrafrique. Il s'agirait d'un énorme pas vers la fin des viols en tant qu'arme de guerre. Rappelons que Jean-Pierre Bemba, 53 ans, a été reconnu lundi coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour des faits remontant à 2002-2003.
En Guinée, 5 morts d'Ebola ont été recensés depuis la réapparition du virus dans ce pays qui avait déclaré à la fin décembre la fin de l'épidémie. Idriss Fall.
Fode Tassila, porte-parole de la Coordination nationale de lutte contre Ebola, a annoncé 5 décès, dont 2 cas confirmés et 3 probables qui ont été inhumés avant d'être testés. 961 personnes ont pu être en contact avec ces cas. Le recensement sera difficile car il faudra identifier ceux qui ont assisté à l'inhumation, ceux qui ont rendu visite aux malades ou ceux qui ont lavé les corps. Les 3 cas probables sont une femme morte le 27 février, son mari et sa coépouse décédée à la mi-mars. Une fillette de 8 ans a succombé le week-end dernier et un malade a fui Zérékoré pour aller mourir lundi à Macenta. Le pays avait été déclaré exempt d'Ebola le 29 décembre, puis le 17 mars, le virus a été identifié sur 2 personnes d'une même famille décédées à Koropara. Pourtant, c'est le même jour que l'OMS avait annoncé l'arrêt présumé de toutes les chaînes de transmission initiales de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, après la fin du dernier épisode de la maladie en Sierra Leone voisine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Course à la présidence ici aux États-Unis, Hillary Clinton et Donald Trump remportent les primaires de l'Arizona. Selon les résultats partiels, le candidat républicain Donald Trump a remporté plus de 46% des voix. Il rafle ainsi la totalité des 58 délégués en jeu dans cet État. Selon chez les démocrates, Hillary Clinton a battu son unique rival, le sénateur du Vermont Bernie Sanders, avec plus de 60% des voix. La répartition des délégués se fera à la proportionnelle. Bernie Sanders, qui a largement battu Hillary Clinton dans l'Utah lors de ses consultations présidentielles démocrates, selon les résultats partiels. Sa première victoire depuis 2 semaines. Les résultats des caucus démocrates dans l'Idaho, il semblerait que ce soit le sénateur Sanders qui l'emporte, d'après la chaîne de télévision américaine Fox News.
Le président américain est arrivé en Argentine. Barack Obama doit marquer son soutien au gouvernement réformateur et rendre hommage aux victimes de la dictature militaire, 40 ans après le coup d'État. Cette escale intervient au lendemain de sa visite historique à Cuba. Le président Obama a rencontré hier des opposants cubains à l'ambassade des États-Unis à La Havane. Il a salué leur courage, John Lyndon.
Tous les individus autour de cette table ont fait preuve d'un courage extraordinaire, a-t-il déclaré au début de cette rencontre, intervenue au dernier jour de sa visite historique sur l'île. C'est un sujet autour duquel nous continuons d'avoir de nombreuses divergences avec le gouvernement cubain, a-t-il ajouté. Une douzaine de dissidents étaient présents, parmi lesquels Elizardo Sanchez, de la Commission cubaine des droits de l'homme et réconciliation nationale. Il y a des personnes ici qui ont été détenues, certaines par le passé, d'autres très récemment, a commenté Barack Obama. Lundi, le président cubain Raúl Castro a vivement réagi aux questions de journalistes sur les prisonniers politiques, mettant au défi l'un d'entre eux de lui fournir une liste pour qu'il puisse les libérer.
Yémen, une frappe américaine contre un camp d'entraînement d'Al-Qaïda a fait des dizaines de morts hier matin. Tel est le bilan du Pentagone.
Turquie, enfin, les forces de sécurité ont interpellé 10 membres présumés du groupe État islamique hier à la frontière syrienne. Parmi eux, un kamikaze bardé d'explosifs, précisent les autorités. Ces individus de nationalité étrangère tentaient d'entrer illégalement sur le sol turc.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
En Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement organise ce mercredi à Abidjan une conférence régionale sur la compétitivité en Afrique de l'Ouest francophone. Experts en développement, décideurs publics et privés vont se pencher sur les questions liées à l'amélioration de la compétitivité en Afrique. Il s'agit aussi d'encourager les efforts fournis par plusieurs pays ouest-africains pour améliorer leur environnement des affaires. Les décideurs africains sont appelés à abattre les barrières à l'intégration économique, le coût du transport, les barrières tarifaires, les lourdeurs administratives, les difficultés d'obtention de visas sont autant d'obstacles à l'accélération de l'intégration régionale. Les dirigeants africains doivent abattre les murs qui séparent les pays. Nous avons besoin de marchés larges et ouverts, a lancé Adesina Hakim Roumi, le président de la Banque africaine de développement, hier à Abidjan lors d'une table ronde organisée à l'occasion de l'Africa CEO Forum. Au Cameroun, Samuel Eto'o devient l'ambassadeur de la filiale camerounaise de l'opérateur téléphonique MTN après avoir longtemps prêté son image au concurrent Orange Cameroun. Les clients de MTN ont été bombardés de messages durant le week-end. Depuis le 21 mars, les réseaux sociaux sont envahis par les publicités de Samuel Eto'o vantant la marque sud-africaine.
Voilà pour la Minute Éco. Merci John. On enchaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Morgane.
On commence en football et là aussi, on parle des attentats de Bruxelles.
Dieu merci, Mbokani, l'attaquant congolais de 30 ans, était présent hier à l'aéroport de Zaventem mais n'a pas été blessé suite aux explosions meurtrières. C'est son club Norwich City qui l'a confirmé sur son site officiel, affirmant que le joueur prêté par le Dynamo de Kiev était sain et sauf, mais choqué. Le club est en dialogue continu avec Dieu merci qui est retourné chez lui auprès de sa famille, poursuit le communiqué. Je vous rappelle que Mbokani était en partance pour Kinshasa où il devait affronter l'Angola samedi avec les Léopards dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Les qualifications de la CAN 2017 reprennent ce mercredi.
Les troisième et quatrième journées des éliminatoires marquées par les grands débuts d'Hervé Renard samedi à la tête du Maroc. Renard, remercié à Lille, aura-t-il la même réussite qu'avec la Zambie et la Côte d'Ivoire qui l'a mené au titre suprême africain? Nous verrons bien en tout cas dès ce mercredi dans le groupe C. Sud-Soudan contre le Bénin, dans le groupe G, le Tchad qui accueille la Tanzanie, la Libye en déplacement à Sao Tomé et Principe dans le groupe F, dans le groupe E, le Congo en déplacement en Zambie et la Guinée-Bissau face au Kenya. On rappelle Morgane que les premiers de chacun des 13 groupes seront qualifiés, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes et bien évidemment le Gabon qui sera le pays organisateur de cette CAN 2017.
Athlétisme.
Le Kenya a jusqu'au 5 avril pour fournir à l'Agence mondiale antidopage des éléments concernant sa nouvelle politique antidopage. Si le pays ne se conforme pas aux règles de l'AMA, ses athlètes pourraient être privés des Jeux olympiques de Rio cet été.
Usain Bolt, toujours plus vite.
Le sprinteur jamaïcain veut, en cette année olympique, abaisser son record du monde du 200 mètres sous les 19 secondes. Actuellement, il est de 19 secondes et 19 centièmes. C'est la chose que je veux le plus au monde, car c'est l'un de mes objectifs. J'en parle depuis toujours et je l'ai toujours voulu. J'attends ça de pied ferme, a prévenu l'athlète jamaïcain. Enfin Morgane, je vous laisse donner quelques résultats de NBA. Le championnat de basket nord-américain. La nuit dernière.
Charlotte Hornets, Brooklyn Nets, 105-100. Miami Heat, New Orleans Pelicans, 113-99. Houston Rockets, Oklahoma Thunder, 107-109.
Dans Washington Forum cette semaine, la visite historique de Barack Obama à La Havane. De l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir à ce premier voyage d'un président américain depuis 90 ans. Retour sur un demi-siècle de relations conflictuelles entre les États-Unis et Cuba. Après l'embargo, quel avenir? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour. La Belgique est toujours sous le choc après les attaques terroristes d'hier qui ont fait au moins 34 morts et des centaines de blessés. Un deuil national de 3 jours a été décrété. À l'instar de celle de Paris, le 13 novembre, les attaques de Bruxelles ont été revendiquées par le groupe État islamique. Retour sur ces événements tragiques avec Laurent Monté, expert en criminologie.
Les attaques de Bruxelles s'inscrivent dans une stratégie désormais continue organisée par le Front islamique depuis au moins 5 à 7 ans et s'installe désormais en Europe, dans la partie occidentale, après le 13 novembre à Paris. Désormais, nous aurons donc le 22 mars avec une stratégie très claire qui est de répondre avec réactivité aux arrestations, aux perquisitions contre les terroristes ou présumés terroristes.
Est-ce qu'il y a un rapport entre les attaques de Paris, celle qu'on vient de vivre à Bruxelles?
Oui, il existe une connexion évidente liée donc d'abord au fait que le principal suspect arrêté il y a 48 heures des attentats de Paris qui était en cavale vient d'être quelque part honoré par des attentats mettant en évidence qu'on donne des représailles à l'arrestation de cet homme. Et puis vous avez exactement la même signature comportementale, des attaques coordonnées contre des places symboliques dans des lieux et des états symboliques, avec le souci, j'insiste bien, de donner de la réactivité à l'arrestation d'Adel Salah.
Que peuvent faire les Européens pour empêcher ce genre d'attaque?
Écoutez, soyons très clairs, il faut du renseignement, c'est-à-dire du renseignement humain, du renseignement matériel, du renseignement stratégique, du renseignement satellitaire. On a besoin de pouvoir prévoir davantage avant que cela n'arrive. Et dans cette configuration-là, le plus important est sans aucun doute le travail de proximité et d'infiltration qui n'a pas, sans doute pas été assez mené pour toucher ces cercles-là. Je veux dire par là qu'on voit évoluer des gens qui se connaissent, qui ont été là depuis un certain temps pour pouvoir avoir des bases arrières, des connexions donc téléphoniques, des liens également familiaux très importants ou de fraternité ou d'amitié qui ne datent pas d'hier, ne peuvent pas se connecter comme ça du jour au lendemain. Et donc, il faut infiltrer ces gens-là. Ça, c'est très clair.
Est-ce qu'il n'y a pas comme une défaillance quand même de la part de Bruxelles? C'était prévisible, non, ces attaques?
S'il était prévisible que Daesh vienne à opérer une forme de représailles après l'arrestation d'Al Salam, il était quand même peu prévisible que ça aille aussi vite. En 48 heures, rendez-vous compte, ils ont été capables de mener une action concertée d'envergure. C'est même à se poser la question, et je me pose sérieusement cette question, de savoir si l'arrestation de notre terroriste n'était pas orchestrée pour pouvoir donner un coup d'éclat 48 heures après.
Laurent Monté, expert en criminologie, est joint à Paris par John Lindon. Alors, quelle est la réaction des pays européens suite à ces attentats du 22 mars à Bruxelles? Au micro de Jacques Aristide, les explications d'Henri-Désiré Nzouzi, consultant en relations internationales. Il est d'origine congolaise et vit dans la capitale belge.
Bon, les réponses européennes, malheureusement, nous les connaissons. Il y a en Europe 3 pays qui sont généralement, je dirais, en pointe dans la lutte contre le terrorisme. On les connaît, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Donc c'est de ces 3 pays que partira forcément l'impulsion. Il existe déjà aujourd'hui des outils, ou en tout cas des mécanismes qui permettent à l'Union européenne de faire face à cette menace. C'est une coordination au niveau des services de renseignement, aux services de police, c'est un échange avec notamment les pays qui sont réputés fournir, je dirais, le contingent de kamikazes. Je ne sais pas si on peut aller au-delà maintenant, vu le caractère totalement inédit de ce qui s'est passé à Bruxelles. Il faut quand même se rappeler que c'est à Bruxelles, à l'aéroport, et ça, ce n'est pas banal. On peut s'attendre évidemment à un durcissement des conditions de sécurité et du dispositif, mais il est clair qu'avec ce que l'on dispose déjà comme outil, ce sera beaucoup plus au niveau belge une réflexion qui sera poussée sur la manière de pouvoir à l'avenir prévenir ce type d'actes terroristes.
Henri-Désiré Nzouzi, consultant en relations internationales, d'origine congolaise et vivant dans la capitale belge.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Nous partons maintenant au Niger. Le président sortant Mahamadou Issoufou a été réélu à plus de 92% des suffrages. C'est ce qu'a annoncé mardi la Commission électorale nationale indépendante à l'issue du deuxième tour de la présidentielle. Une réélection sans surprise, puisque son adversaire, Mahamadou, ancien président de l'Assemblée nationale, n'a pas battu campagne. Ses partisans ont d'ailleurs boycotté le scrutin. Malgré tout, la participation est allée au-delà des 50% et la victoire a été fêtée toute la nuit par les partisans du président réélu. Reportage à Niamey de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Quelques minutes après la proclamation des résultats qui donnent grand vainqueur leur candidat, les militants du parti de Issoufou Mahamadou et ceux des formations politiques qui l'ont soutenu se sont retrouvés à la devanture du siège national du parti pour célébrer la victoire.
Je dis d'abord que c'est une belle victoire, une très grande victoire. 92% ce n'est pas trop, mais 92% c'est très bon.
Ben là c'est vraiment une joie, une grande joie. Que nous soyons, Dieu merci, alhamdulillah, Dieu merci.
À partir d'aujourd'hui, la politique, la campagne, elle est terminée. On doit se remettre au travail pour que le Niger gagne.
Au palais présidentiel, Issoufou Mahamadou fait sa première déclaration après sa réélection. Il appelle au rassemblement et à l'union.
J'ai besoin du soutien de tous les Nigériens. Rassemblons-nous donc, ne gaspillons pas nos énergies dans de vaines querelles pour construire notre maison commune. Notre pays doit renforcer son unité et sa cohésion sociale. C'est dans cette perspective que je lance un appel au rassemblement de tous les Nigériens pour que se mette en place un large front dont le seul objectif sera la renaissance du Niger et donc le progrès, la paix et la prospérité pour tous.
À l'issue de ce scrutin boycotté par l'opposition, l'ensemble des observateurs ont invité les deux camps au dialogue. Mais le président du parti au pouvoir, Bazoum Mohamed, veut bien recadrer les choses.
Quand ils disent qu'ils ne reconnaissent pas les institutions qui sont ici, de ces élections-là, il n'y a pas de dialogue. À partir du 10 avril, il n'y aura aucun dialogue sur la base qu'eux, ils ont indiquée. S'ils veulent un dialogue, ce sera sur la base de la reconnaissance des institutions. Et nous n'allons pas les implorer pour ça, croyez-moi. Et ils le verront dans notre comportement sur le terrain.
Pourtant, quelques instants avant la proclamation des résultats, l'opposition a réaffirmé sa volonté de ne pas reconnaître les résultats et les institutions issues du vote et appelé à une résistance citoyenne à partir du 1er avril prochain qui marque la fin du mandat du président Issoufou Mahamadou.
La COPA informe les militants, sympathisants et toutes les forces démocratiques que toute proclamation de résultat définitif par la Cour constitutionnelle en violation des délais légaux de recours, comme elle l'a déjà fait au premier tour, constituera le point de départ à la résistance citoyenne.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Sur le référendum de dimanche au Sénégal. Le scrutin s'est bien déroulé, c'est en tout cas la conviction du ministre de l'Intérieur. D'après Abdoulaye Daouda Diallo, les citoyens ont voté dans le calme. Le taux de participation est de 40,42%. Un faible taux qui s'explique, nous dit Sorna Natambaye, notre correspondante à Dakar.
Malgré tous les manquements décriés par des membres de l'opposition lors du processus référendaire, le ministre de l'Intérieur minimise et parle d'un scrutin on ne peut plus parfait. Abdoulaye Daouda Diallo.
Aucun dysfonctionnement n'a été enregistré, malgré l'ampleur de la tâche et des délais particulièrement serrés pour l'organisation. À l'issue du scrutin, le peuple sénégalais vient une nouvelle fois de démontrer sa maturité en exprimant son opinion à travers les urnes de manière démocratique, transparente et pacifique.
En outre, l'autorité en charge des élections a donné quelques chiffres relatifs au vote de dimanche dernier.
Même si je ne suis pas l'autorité, et c'est important, habilité à prononcer les résultats, les tendances enregistrées par mes services compétents se présentent ainsi qu'il suit. Nombre d'inscrits 5 496 406, nombre de votants 2,221,647, taux de participation 40,42%. Il faut signaler qu'il a progressivement diminué à travers les différents référendums suite à l'accroissement inverse du nombre d'inscrits sur le fichier électoral. L'instauration de la carte nationale d'identité numérisée en 2005 qui a été accompagnée par l'inscription automatique sur le fichier électoral.
La Commission nationale de recensement des votes prévoit de publier les résultats le vendredi prochain et les commissions départementales ce mercredi. Abdoulaye Daoud Diallo a voulu également insister sur le caractère apolitique de la rencontre.
Je voudrais rappeler le caractère éminemment républicain de l'exercice auquel je me prête. Par conséquent, je vous demande d'éviter des questions à relent politique.
Concernant l'aspect sécuritaire, plus de 10 000 soldats, 4 030 gendarmes, 4 224 policiers et 1 237 agents de sécurité de proximité ont été mobilisés pour le référendum. Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le Haut Comité pour la Réconciliation et l'Unité Nationale, mis sur pied il y a 2 mois par le président, a désormais carte blanche pour travailler. Ses membres ont été officiellement installés dans leurs fonctions à Ouagadougou par le président Rochmar Christian Kabore. Des détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Mesdames et messieurs les membres du Haut Conseil, soyez assurés de ma sollicitude et de mon appui pour le succès de votre mission. Sur ce, je vous déclare installé dans vos fonctions et vous souhaite beaucoup de réussite. Je vous remercie.
Par ces mots, le président du Faso, Rochmar Christian Kabore, donnait officiellement quitus au Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale pour se mettre au travail à l'occasion d'une cérémonie solennelle au palais présidentiel. Un acte majeur selon Rochmar Christian Kabore qui a souligné un attachement commun à la paix, la cohésion nationale, la bonne gouvernance et la lutte contre l'impunité. Un Haut Conseil qui relève 2 missions essentielles selon son président Benoît Kambou.
Nous aurons une mission de sensibilisation et une mission de renforcement des capacités et nous allons aussi impliquer toutes les institutions parce que la loi nous permet de nous adresser à toute personne physique ou morale en raison de sa compétence ou de son expertise pour lui demander de nous porter appui.
Quel type de dossiers sont concernés? Réponse de Benoît Kambou.
C'est généralement des dossiers qui ont été constitués sur la base des témoignages des victimes. C'est des anciens dossiers dont certains sont prescrits et d'autres sont pendants devant les juridictions. On s'y attellera pour donner des réponses convenables.
Le Burkina revient de loin et le travail attendu de ses 21 hauts conseillers issus de divers milieux socio-professionnels, religieux, coutumiers et associatifs devrait permettre de résorber, il est vrai, les différents crimes survenus depuis les années 60, mais aussi et surtout panser les plaies nées des profondes déchirures qui ont suivi la chute de l'ancien président Blaise Compaoré, aujourd'hui poursuivi par la justice burkinabé. Faire la lumière sur les crimes commis, rechercher la justice et procéder à des réparations de cas échéants, c'est ce qui attend le Haut Conseil sur plus de 5000 cas de crimes et de violations graves de droits humains qui, malheureusement, devront encore patienter un bon moment. Benoît Kambou, le président du Haut Conseil.
Nous venons d'horizons divers, nous n'avons pas tous le même niveau. Donc il faut procéder à une formation des membres sur la justice transitionnelle qui n'est pas la justice ordinaire. Au bout d'une année, en tout cas, nous pensons mettre l'accent sur ce premier aspect qui est la formation.
Benoît Kambou et ses hommes ont du pain sur la planche sur le chemin de la création des conditions favorables à une vraie réconciliation et une cohésion sociale nécessaire pour une nation qui gagne. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-8540. Je répète, 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Alain Burton, présentation Morgane Guériec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24h sur 24.